Donc une tactique qui marche bien, mais qui est très peu utilisée et qui est même méconnue, c'est la colocation. La colocation, c'est quoi? Il s'agit donc de louer un appartement qui a 2, 3, 4, 5 chambres, de louer les chambres en fait à des étudiants notamment, ou alors à des jeunes, ou alors à des cadres, ou alors à des personnes âgées. Voilà, on peut faire différentes niches, différentes thématiques comme ça. Et donc vous allez mutualiser finalement un appartement. Un appartement avec 4 chambres que vous auriez pu louer seulement par exemple 1200 euros la chambre, 4 chambres, 1200 euros l'ensemble à une seule famille. Et bien si vous louez chambre par chambre, vous allez peut-être pouvoir louer 400 euros chaque chambre, ce qui fait 1600 euros au lieu de 1200. Donc quand on mutualise comme ça un espace, on gonfle clairement les loyers perçus. Et donc la colocation, c'est ça marche très fort avec les étudiants. Mais voilà, il y a très peu d'investisseurs qui se sont lancés là-dedans. Et pourtant, c'est dommage parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment des facilités à obtenir 10% de rendement avec ce type avec cette tactique. Donc c'est assez intéressant. Et pour ça, vous avez deux types de baux. Deux types de baux, vous avez le bail avec clause de solidarité. Donc ça, c'est super pour vous, le bailleur. Ça veut dire que, imaginez, vous avez 4 chambres et 4 locataires. S'il y a un des 4 locataires qui ne paye pas, ou alors un des 4 locataires qui part et que la chambre est vide, alors c'est aux 3 autres de payer ce qui manque. Donc vous êtes sûr, vous êtes assuré d'avoir votre loyer total qui rentre. S'il y en a un qui part, c'est à eux de trouver un remplaçant. C'est cool. Ça, par contre, dans la pratique, ça marche uniquement dans les colocs qui sont bien placés, qui sont vraiment tip-top. Comme par exemple à la Sorbonne, à Paris. Vous avez un appartement en face de la Sorbonne à Paris. Là, on peut se permettre de faire ça. 3-4 chambres, 5 chambres, avec un bail avec clause de solidarité. Ils se débrouillent pour trouver quelqu'un. De toute façon, il y a tellement de demandes. Mais c'est eux qui. Voilà, il y en a un qui ne paye pas, un qui fait défaut. C'est les autres qui payent. Ou c'est plutôt les parents qui payent. Et là, vous êtes tranquille. Mais voilà, encore une fois, il faut être vraiment bien placé. Et ça, c'est pas forcément évident. Ou alors vous avez des bails sans clause de solidarité. Et là, finalement, c'est un petit peu comme si vous aviez, donc si vous avez 4 chambres, vous allez avoir 4 baux individuels avec les 4 locataires. Boum, 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 boum. Finalement, c'est comme si que vous aviez un petit immeuble avec 4 appartements. Vous louez chambre par chambre. Chacun est responsable de son bail. S'il ne paye pas, ce n'est pas le problème des autres. Donc, moi, en tant que locataire, c'est ce que j'aurais préféré éventuellement, c'est sûr. Mais ça, encore une fois, ça dépend de où est-ce que vous vous trouvez. Par exemple, à Cergy-Préfecture, oui, on va avoir des baux sans clause de solidarité. Mais à Paris, en face de la Sorbonne, vous pouvez mettre avec clause de solidarité et vous aurez beaucoup, 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 beaucoup de demandes. Pour trouver des baux, vous pouvez aller sur jurymodel.com. Là, vous aurez des modèles de baux. Ça ressemble à ça, jurymodel.com. Et là-dessus, donc, vous allez dans immobilier, il y a tout un tas, même de sociétés, tout ce qui est SARL, EURL, SCI, SASU, on a plein de modèles là-dessus. C'est à jour, c'est fait par des juristes. Et donc, si vous allez par exemple dans colocation, et là vous avez donc des contrats de bail en colocation sans clause de solidarité, avec clause de solidarité, loi Allure, colocation meublée, engagement de caution, voilà, vous avez tout un tas de documents. Et ça, voilà, c'est valable 5, 10, 15, 20 ans, une fois que vous avez ça. Votre contrat, il suffit de le modifier et voilà, c'est parti. Ou alors, vous faites gérer par une agence qui s'occupera de rédiger les baux pour vous. Mais voilà, en gros, sur ce site-là, jurymodel.com, vous pouvez trouver tout un tas de modèles de baux, de documents juridiques. Voilà, c'est très pratique, c'est très bien fait. Vous avez des textes en rouge à remplacer, à modifier. Moi, c'est ce que j'utilise et c'est plutôt voilà, bien fichu. Donc voilà, la colocation, pensez-y. Voilà, c'est vraiment, c'est une niche qui n'est pas exploitée, très peu exploitée par les investisseurs. Et pourtant, vraiment, pour moi, c'est un mix entre la location saisonnière et la location meublée. Donc c'est beaucoup plus rentable que la location meublée et ça demande beaucoup moins de travail que la location à la semaine. Donc oui, ce sera certes moins rentable que la location à la semaine. Vous n'allez pas doubler, vous n'allez pas faire une différence, c'est sûr, entre le loyer simple et le loyer à la semaine. Vous n'allez pas doubler, mais vous aurez quand même beaucoup moins de travail parce que vous aurez juste 4 locataires qui vont peut-être partir une fois par an. Donc ça fait 4 changements à faire par an, grand max, contre la location à la semaine. Si on imagine que c'est un toutes les 3 nuits, faites les maths. Avec un bien, vous pouvez avoir 80 rotations dans l'année, contre 4 pour la colocation. Et encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Donc il est plus simple d'avoir 3 biens loués en colocation qu'un bien loué à la semaine. Donc c'est vraiment pour moi seulement un bon compromis. Voilà, vous devriez gratter là-dessus. Et je voulais vous montrer quelques exemples, ou plutôt un exemple à viser pour faire de la colocation, pour approcher 10% facilement. Et donc je vais vous montrer un exemple à Cergy, parce qu'encore une fois, Cergy, je connais bien. J'ai grandi à Cergy-Pontoise. J'ai fait mes études dans une école d'ingénieurs où il y avait justement beaucoup d'étudiants qui faisaient de la colocation. Donc là, par exemple, encore une fois, j'ai regardé ça en 2 secondes, mais il faut gratter, il faut creuser. Là, l'immeuble, je vois bien où il est. C'est très moche, mais il y a beaucoup de demandes, c'est bien placé à Cergy-Préfecture. Et Cergy-Préfecture, Cergy en général, c'est une ville étudiante. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de facs, d'universités. Donc voilà, très étudiant, et ça, quand il y a beaucoup d'étudiants, ça se prête vraiment à la colocation. Donc là, on a 4 chambres pour 219 000 euros. Frais d'agence inclus, ça bien sûr, c'est un prix affiché, mais il faut le négocier, ça se négocie. Et en gros, voilà, dans 4 chambres, il y a plusieurs WC, ce qui est bien pour la colocation, et place de parking en sous-sol. Et donc, imaginons que on ait ce bien-là à 200 000 euros, on arrive à négocier 200 000 euros. Ça se fait, hein. Ça, c'est préfecture, c'est une vieille résidence. Le bien ne partira pas forcément à ce prix-là. Donc, on négocie 200 000 euros. On a 4 chambres. On loue chaque chambre. Ça dépend du standing, hein, de l'équipement qu'on a fait, internet, femme de ménage qui passe ou autre. Donc, on loue chaque chambre 400 euros par mois, sachant qu'ils ont des aides. Ils ont la PL. Donc, 400 par mois, ça fait du 1006. 1006 par mois, au lieu de ça, on pourrait louer peut-être 1000 euros en fixe et encore, hein. Et là, on passe à 1006 en location, en colocation, avec 4 locataires, 4 étudiants. Et bien, ça nous fait 19 200 euros par an de revenus. Et donc, si on arrive à descendre à 200, on est quasiment à du 10% de rendement. Voilà. Et si on passe à 450 par mois au lieu de 400, on est à 1800 par mois de revenus. Et sur l'année, ça fait 21 600 euros de revenus, et là on est quasiment déjà à 10% avec le prix qui est proposé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de gratter, la colocation. Je vous dis, c'est vraiment pas exploité, et c'est une faille à aller voir, et il y a vraiment 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 des choses à faire. Et une tactique de la tactique, si vous voulez, en termes de colocation, ça va être la colocation saisonnière. Et là, ça permet de mutualiser encore plus. Par contre, là, bien sûr, vous aurez, déjà, je vous disais, avec un appartement en location à la semaine, vous avez plus de travail qu'en colocation, ce qui est normal, parce que vous aurez peut-être 80 à 9 heures. Mais après, encore une fois, quand vous faites gérer, on s'en fout. Mais vous pouvez faire de la colocation saisonnière. Donc, vous avez des chambres que vous allez louer à la semaine. Et là, vous aurez non pas 80 turnover dans l'année, mais vous pourrez en avoir 160, 240, 320 dans l'année. Donc là, par contre, il faut avoir les reins solides et avoir une structure et se faire aider. Là, on n'a pas le choix, par un gestionnaire. Et donc, comme je vous disais, la colocation saisonnière, c'est un petit peu la tactique de la tactique de colocation. Et ce n'est pas du tout répandu en France, ou en tout cas, pas trop encore. Parce que déjà, je vous disais que la colocation, ce n'est pas trop répandu. La location la semaine, ça s'est bien développé. Mais mixer les deux, ça n'existe pas encore en France. Et c'est quand, justement, on va aller comme ça sur des nouveaux créneaux en immobilier qu'on va pouvoir faire de l'argent. Donc, voici par exemple ce que j'ai loué à Chicago. J'ai été là-bas pendant une semaine et j'ai pris un Airbnb pendant quelques jours avant d'aller à l'hôtel. Et donc à la base, je ne savais pas que c'était une colocation. J'ai trouvé un truc, j'ai pris. Et en fait, en arrivant sur place, je me suis rendu compte que c'était un appartement qui était, et c'était les chambres qui étaient louées dans l'appartement. Donc on avait accès à la salle de bain, on avait accès à la cuisine et au salon, mais on avait aussi sa chambre privative avec la clé pour fermer sa chambre. Et donc c'était de la colocation saisonnière finalement. Et donc c'est Katia qui louait ça, mais en fait Katia, c'était une gestionnaire. Et elle devait, je pense, gérer plusieurs appartements dans Chicago. Et d'ailleurs, quand on voit le nombre de commentaires qu'elle avait, là, 193 commentaires, c'est oui, ça devait être une gestionnaire qui louait plusieurs biens. Elle avait un accent de l'Est et de l'Europe en plus. Et donc j'ai loué ça du 26 au 28 juillet. Ça m'a coûté 171 euros pour les 2 nuits, donc à peu près 80 euros par nuit. Sachant que l'hôtel que j'ai loué après, par la suite, j'avais été faire un séminaire là-bas d'une semaine. L'hôtel, c'était plus dans les 250 euros la nuit. Donc on voit la différence de prix. Après, ça n'avait rien à voir en termes de service. Pour moi, c'est pas du tout concurrent, hein. Donc voilà. Colocation saisonnière, finalement, J'ai même pas vu en plus les autres colocataires, je suis resté que 2 nuits, je les ai même pas croisés. Peut-être une fois croisés dans l'appartement, on s'est dit bonjour, je sais même plus à quoi ils ressemblent. Et voilà, donc pourquoi pas la colocation saisonnière, c'est vraiment quelque chose qui pourrait cartonner également. Et voilà, c'est à vous de creuser ça, vraiment. Ensuite, vous pouvez aussi faire de la sous-location. Sous-location, donc ça c'est quoi? Et là, tous les juristes, tous les notaires, tous les avocats vont vous dire: ah non, non, surtout pas. Sous-location, ça consiste à vous louer un bien. Vous louez un bien et vous allez le louer, qui plus est, à la semaine, pour faire un plus gros gap. Voilà. Vous n'êtes pas propriétaire du bien, juste vous avez loué, vous avez un bail avec le propriétaire et vous allez exploiter l'appartement pour en faire la location à la semaine. Pour ça, légalement, il faut avoir l'accord du propriétaire. Enfin, il faut regarder dans le bail, mais bien souvent, c'est écrit dans le bail que s'il n'y a pas d'accord, alors on n'a pas le droit de le faire. Ou alors, si vous sous-louez l'appartement, alors il ne faut pas que ce que vous gagnez, ça dépasse le montant de ce que vous payez. Ça, c'est un petit peu le complexe français d'argent, vous savez. Il ne faut pas que tu gagnes d'argent. Bref, c'est un complexe français. Mais bon, sinon, il faut demander au bailleur l'accord. Lui, ce qu'il veut, le bailleur, s'il est intelligent, c'est: un, que vous lui payez le loyer en temps et en heure, et deux, que l'appartement ne soit pas délabré. Si le gars est malin, c'est ce qu'il veut: l'argent qui tombe et le bien qui n'est pas délabré, un bien qui est respecté. Et vous, si vous pouvez lui apporter ça en louant son bien à la semaine, donc quand vous louez un bien à la semaine, il est moins dégradé parce que les locataires passent leur temps dehors. Ils rentrent juste pour prendre une douche et dormir, et éventuellement se faire un petit déjeuner. Donc moi, par exemple, je vois que le four en Guadeloupe, on a un four tout neuf, les gens ne s'en servent pas. Ils vont pas en Guadeloupe pour faire des pâtisseries. Déjà, ils arrivent, ils ont chaud. Et ils vont plus à la plage et ils mangent dehors dans les restaurants ou autres. Donc, le bien est moins dégradé quand on loue à la semaine, et l'argent tombe. Donc voilà, vous pouvez trouver un bailleur qui comprend ça et qui sera d'accord pour que voilà, vous exploitiez son bien à la semaine et vous lui donnez un fixe. Et après, c'est vous qui, voilà, vous prenez les bénéfices. Le gars, s'il comprend ça, voilà, c'est bon. Ou alors, vous pouvez bien sûr le faire ce qu'on appelle pas vu, pas pris. Mais ça, encore une fois, ça dépend de la copro. Il faut voir, voilà, c'est vous qui jugez si vous pouvez le faire ou pas. Mais ça permet en plus de faire du cash flow tout de suite si on ne peut pas obtenir un bien immobilier, un crédit immobilier. Je connaissais quelqu'un qui le faisait à Paris, à Montmartre. Il louait un appartement en vide, mais vraiment Montmartre, Abbesse, métro Abbesse, vraiment le truc très touristique. Il louait 800 euros un petit deux pièces de 30 mètres carrés. Il l'avait loué nu. Il l'avait meublé chez Ikea et tout, un truc assez sympa, un peu, même un petit peu décalé, un petit peu un télo, vous savez, appartement, un télo, enfin avec des livres, pas forcément des trucs hype, bien carrés, quoi. Il avait mis des babioles de chez lui et tout. Et donc, il le louait 800 euros par mois, et il en tirait 2500 euros de revenus locatifs chaque mois. Donc faites le calcul, il prenait un billet de 1700 euros de bénéfices chaque mois. Et voilà, cet appartement-là, la vente, 800 euros, donc sur Paris-Montmartre, ça doit être du 3% de rendement. Donc c'est un appartement qui devait valoir 240 000 euros. Donc voilà, intouchable pour lui parce qu'il ne pouvait pas avoir le financement. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a loué en nu. Il l'a meublé et finalement il l'a mis en location. Et il prend plus de 1500 euros de bénéfices chaque mois là-dessus. Donc sans avoir de crédit immobilier. Et ça permet de tester un lieu sans risque. Bon, là on sait qu'en l'occurrence, Montmartre, il n'y a pas trop de risque. Mais si vous voulez tester, avoir un test encore plus réaliste que le Bon Coin, vous pouvez commencer par le Bon Coin, mettre une fausse annonce. Après, vous pouvez louer un bien et le sous-louer pour faire un test grandeur nature. Soit en location meublée ou nue. Et si ça ne marche pas, voilà, vous rendez les clés de l'appartement et vous aurez pu tester ça sans vraiment prendre de grands risques. On va voir une autre tactique qui n'est pas forcément aussi répandue parce qu'elle fait peur au premier abord, mais pourtant il y a moyen de faire des belles choses là-dedans aussi. Il s'agit de l'immeuble de rapport.